Bonjour à tous. Donc, je me présente brièvement. Je suis Franck David. Je travaille à la direction de la recherche et développement de EDF à Chatou, sur l'île de Chatou. Et je suis ingénieur senior dans le domaine de mécanique des fluides, de transfert thermique. Et j'ai passé déjà une trentaine d'années à travailler sur des modélisations, sur des phénomènes associés aux centrales nucléaires, des phénomènes de modélisation et aussi des problématiques plus industrielles de fonctionnement. Donc, je vais vous faire aujourd'hui une introduction sur les centrales nucléaires à eau pressurisée, puisque ce sont celles que l'on utilise sur notre parc AEDF et que l'on exploite. Et j'ai divisé la présentation en quatre chapitres principaux. Donc, les objectifs, c'est d'être en mesure de connaître les principaux circuits d'une centrale REP et leurs fonctions. Ensuite, on ira voir un petit peu les différents composants qui sont et les composants principaux qui existent sur une centrale. On abordera aussi des notions de base sur les écoulements diphasiques, les écoulements à changement de phase, puisqu'on les retrouve de manière assez majoritaire, et c'est une problématique qu'on doit traiter pour le bon fonctionnement de nos centrales. Et puis, je vous donnerai pour terminer quelques informations sur une méthode pour dimensionner les échangeurs qui pourra vous servir par la suite. Voilà, je vais passer en mode plein écran pour la suite de la présentation. Comment est constitué le réacteur à eau pressurisée REP? Donc globalement, on a l'habitude de présenter les choses de cette manière, avec une partie qui est la partie, disons, la plus sensible, qui est la partie primaire avec son bâtiment réacteur. Une partie qui est une partie conventionnelle, la salle des machines, qui va servir à convertir l'énergie obtenue dans la partie bouilleur, dans la partie primaire, en énergie mécanique. Et enfin, une troisième partie qui est la partie de connexion avec la source froide, qui est l'environnement, et qui peut se faire au travers d'un réfrigérant atmosphérique ou bien éventuellement d'une connexion directe avec le milieu liquide environnant, donc soit un fleuve, soit la mer. Alors, si vous suivez la main que je fais circuler là sur le document, donc côté primaire, donc le circuit primaire, donc le circuit, c'est de l'eau qui va être sous pression, donc toujours en phase liquide, et qui va alimenter à la base l'ensemble des crayons combustibles et l'ensemble des assemblages combustibles, donc au travers de la remontée du flux de masse liquide au sein des crayons chauffants. Donc la température va s'accroître, rester de toute façon monophasique du fait de la présence du pressuriseur qui maintient la pression à 155 bars. Et vous aurez ensuite, vous voyez ensuite qu'il y aura la traversée d'un ensemble de tubes qui sont en fait des tubes d'échangeurs. Et donc le fluide primaire va évacuer son énergie vers le fluide circulant de l'autre côté des tubes d'échangeur. Donc l'énergie perdue sous forme de chaleur sensible va ensuite être récupérée en refaisant ainsi à nouveau un circuit dans le primaire. Côté secondaire, de l'eau liquide va alimenter le générateur de vapeur. Cette eau liquide va s'évaporer, se vaporiser au contact des surfaces chaudes des tubes venant du primaire. La vapeur va ensuite être conduite vers des turbines, et ces turbines vont convertir l'énergie thermique en énergie mécanique pour faire tourner un alternateur et produire de l'électricité. Bon, ensuite, on a la connexion entre la partie vapeur qui s'est détendue et qui est à basse pression, et le milieu et la source froide au travers d'un autre échangeur qui est le condenseur, donc qui va, côté vapeur, permettre de condenser la vapeur à très basse pression, et donc l'énergie sur le circuit tertiaire va être récupérée en faisant légère augmentation de température au sein du condenseur, et donc l'énergie thermique sensible va être ensuite rejetée vers l'environnement. Si on regarde peut-être plus sur cette figure qui est un éclaté d'un réacteur à eau pressurisée 4 boucles. Donc 4 boucles parce qu'il y a 4 générateurs de vapeur qui récupèrent l'énergie du cœur. Hein. On a en fait un système qui est un petit peu plus compliqué que le schéma simplifié de tout à l'heure. Donc vous voyez le bâtiment réacteur ici qui contient le circuit primaire. Donc le circuit primaire est figuré en rouge. Donc il reste de taille assez modeste hein, par rapport au reste de la centrale. Ensuite, la partie conventionnelle, c'est le circuit secondaire qui utilise la vapeur produite au sein des GV, qui conduit la vapeur vers les turbines qu'on voit ici. Et sous les turbines, on a la connexion entre la partie vapeur détendue et le circuit alimenté par la source froide, donc le circuit de refroidissement qui est en connexion avec l'eau de mer, l'eau de rivière ou éventuellement une tour de refroidissement atmosphérique. J'ai aussi fait figurer sur la gauche un élément qui est important dans un réacteur nucléaire, qui est la piscine de désactivation des combustibles. Donc c'est là où les combustibles vont être entreposés, soit avant chargement dans le cœur du réacteur, soit après avoir séjourné pendant quelques temps, 2-3 ans. Donc les combustibles vont venir dans cette piscine de désactivation et se refroidir avant d'être transportés dans un autre endroit. Bon, si on regarde de manière globale une centrale nucléaire, donc c'est finalement un cycle moteur, hein, en pratique un cycle de Rankine. Donc on a une source chaude, une source froide, et au milieu, on a la possibilité de fonctionner en cycle moteur avec de la conversion d'énergie en énergie mécanique. Donc le cœur du réacteur, c'est celui qui produit l'énergie thermique à partir des réactions nucléaires. Le circuit secondaire va transformer l'énergie thermique en énergie mécanique moteur. Et enfin, le circuit tertiaire extrait l'énergie vers la source froide qui est l'environnement. Si on essaie de représenter ça sur un diagramme thermodynamique, donc là j'ai choisi le diagramme TS, donc la température apparaît en ordonnée et l'entropie massique en abscisse. Donc la partie rouge ici correspond à l'introduction d'énergie. Donc ce qui est figuré en fait, c'est la circulation de la partie secondaire, hein, c'est finalement la partie du cycle de conversion d'énergie. Donc le fluide secondaire va être chauffé au sein du générateur de vapeur par l'énergie arrivant du cœur du réacteur, donc chauffé d'une part et vaporisé en partie. Ensuite, au sein de la zone bleue ici, c'est la détente au travers de la turbine. Et enfin, la partie verte, c'est l'extraction d'énergie par condensation et le transfert vers la source froide. Donc le rendement du cycle, hein, classiquement, c'est la puissance utile hein, qui est récupérée dans un cycle moteur par rapport à la puissance dépensée pour faire fonctionner ce cycle. Finalement, la puissance utile, c'est la puissance qui est récupérée à la turbine. On peut déduire de cette puissance utile la puissance qui est nécessaire, la puissance de pompage nécessaire hein, pour faire circuler le fluide, puisque ça c'est de l'autoconsommation d'une certaine manière. Et la puissance dépensée, c'est finalement, ou la puissance injectée dans le cycle, c'est la puissance qui vient sous forme thermique depuis le bouilleur, c'est-à-dire depuis le circuit primaire. Donc les rendements obtenus avec ce type de machine dans les configurations d'une centrale REB sont de l'ordre de 33-37%. Évidemment, la qualité et les performances des machines ont évolué au cours du temps. Peut-être quelques ordres de grandeur sur les niveaux de température et de pression dans les différents circuits. Donc au niveau du circuit primaire qui est maintenu sous pression à 155 bars, la température du fluide qui va circuler va varier entre 290 et 330 degrés environ. Dans le circuit secondaire, donc le circuit secondaire qui est un circuit en eau vapeur, on aura au niveau du GV une pression de l'ordre de 70 bars avec des niveaux de température autour de 280-290 degrés. Et au niveau du condenseur, à l'extrême, hein, pour les parties à plus basse pression, on aura des niveaux de pression de l'ordre de 0,05 bar, donc 50 millibars environ, et pour des températures associées de l'ordre de 30 à 40 degrés. Donc, évidemment, le circuit secondaire est refroidi par un circuit de refroidissement qui, lui, est encore plus froid. Donc, en l'occurrence, là, il est alimenté par de l'eau aux alentours de 1 à 2 bars. Et la température de cette eau est de l'ordre de 15 à 30 degrés. En fait, c'est la température qu'on va récupérer dans le milieu environnant. Donc, si on est en Arabie Saoudite ou si on est en Norvège, on n'aura pas les mêmes niveaux de température de référence pour la source froide. Quelques informations sur vis-à-vis de la sûreté pour vous expliquer que finalement dans le cas de l'utilisation de combustible nucléaire, donc il s'agit évidemment de protéger les populations des éventuels risques de contamination. Et donc bon, il existe une stratégie basée autour de l'intégrité de trois barrières de confinement, hein, donc qui protège le milieu extérieur des éléments radioactifs qui sont produits au niveau du cœur du réacteur. Donc la première barrière de confinement, c'est les gaines de crayon combustible qui contiennent le matériel radioactif, là où se produisent les réactions de fission. La deuxième enveloppe, c'est l'enveloppe du circuit primaire, donc le circuit en rouge, y compris passant d'ailleurs par tous les tubes de générateur de vapeur. On verra le générateur de vapeur un petit peu plus tard. Et puis la troisième barrière, c'est l'enceinte de confinement. Donc au niveau de la sûreté, il y a une stratégie en fait qui est mise en place pour s'assurer que l'ensemble de ces trois barrières reste intègre, et lorsque une barrière fait défaut, notamment par exemple la gaine de crayon combustible, lorsqu'elle devient fuitarde pour une raison, il y a plein de scénarios qui peuvent conduire à ces situations-là. Donc ensuite, c'est l'enveloppe du circuit primaire qui doit être en mesure de répondre à l'exigence de confinement, puis l'enceinte de confinement elle-même, si jamais le circuit primaire venait à relâcher des éléments pour raison de fuite ou de rupture de canalisation dans le bâtiment réacteur. Donc, pour combattre en fait les conséquences de ces situations accidentelles, bon, généralement, on fait appel à un ensemble de systèmes qui s'assurent qu'il y aura alimentation en eau et en puissance électrique ou mécanique suffisante pour faire marcher des systèmes de sûreté. Donc, ici, ce que je vous représente, c'est un petit peu complexe et peut-être que vous ne voyez pas forcément très bien, mais vous voyez que la centrale nucléaire ne se limite pas en fait au circuit de refroidissement principal que je vous ai, sur lequel on a discuté, c'est-à-dire le circuit primaire qui est présenté ici, donc le cœur du réacteur et les alimentations des quatre boucles passant par les générateurs de vapeur, mais contient aussi tout un tas d'autres circuits annexes, donc notamment le circuit de contrôle volumétrique et chimique qui est en connexion avec le circuit primaire, qui permet de maintenir les inventaires en eau, dans une certaine mesure les inventaires en eau du circuit primaire, et aussi d'injecter des niveaux du bore dans l'élément chimique, le bore, hein, qui est injecté dans le circuit primaire parce qu'il a une capacité à absorber les neutrons, et donc on peut piloter le réacteur avec le niveau de bore dans le circuit primaire. Un autre ensemble de circuits sont les circuits qui permettent de faire fonctionner le réacteur lorsqu'il est à l'arrêt ou découvert. Donc c'est un circuit qui permet d'extraire en permanence de l'énergie. Donc il est utilisé, le circuit RRA est utilisé à la fois en exploitation mais aussi pour des problématiques de sûreté. Et enfin, un autre circuit qui est utilisé dans le domaine de sûreté, c'est un circuit qui permet d'avoir des alimentations complémentaires en eau pour éviter que les combustibles ne se dénoient, et aussi pour refroidir le système de refroidissement de l'enceinte, qui est un système basé sur de l'aspersion. enfin, l'enceinte de confinement participe également par sa résistance, puisque c'est une enceinte en béton, à l'intégrité du recteur. Si on regarde maintenant les éléments constitutifs du circuit secondaire, donc sortant du générateur de vapeur, la vapeur est transmise en fait en direction de différentes turbines, des turbines à haute pression ou des turbines à basse pression. Entre la haute pression et la basse pression, la vapeur est ensuite envoyée vers différents échangeurs, donc des échangeurs qui sont des sécheurs surchauffeurs, par exemple, ou des réchauffeurs. Donc les réchauffeurs permettent de réalimenter le générateur de vapeur avec une température suffisamment élevée pour permettre un meilleur rendement. Et le groupe GSS, sécheur surchauffeur, permet également de sécher la vapeur et de réchauffer de la vapeur qui va vers les turbines basse pression pour assurer un meilleur fonctionnement de la turbine basse pression. Donc, si on regarde maintenant un schéma, disons, avec des données un petit peu plus quantitatives, donc on retrouve la même architecture, mais un petit peu plus complexe. Ici, c'est une centrale 900 MW. Vous voyez que pour un générateur de vapeur, en fait, la puissance dans le générateur de vapeur produite, dans l'ensemble des générateurs de vapeur, vont ensuite aller vers des turbines. Et ce qui est figuré sur ces schémas, ce sont les niveaux de pression, d'enthalpie, de température et les niveaux de débit qui circulent au travers de ces composants. Donc on peut voir à chaque nœud, en fait, on peut faire des bilans d'énergie entre les valeurs qui sont à l'entrée de la turbine HP et ici, par exemple, la valeur qui est le premier soutirage de la turbine HP qui va alimenter un réchauffeur. Ici, vous voyez sur la turbine BP, ben, de la même manière, vous avez un soutirage ici de la turbine BP qui est de la vapeur qui va alimenter un réchauffeur, le réchauffeur numéro 3. Et enfin, ici, vous avez au niveau du condenseur la vapeur la plus basse en termes de température, donc à 31 degrés, mais sous forme de vapeur, qui va se condenser, qui va produire de l'eau liquide à 31 degrés. Voilà. Et le circuit va se continuer ainsi.